ici le dernier cours depuis déjà combien de temps? Plusieurs années maintenant.
6, 7, 6 ans au Ouais, en gros. Ans. Au moins 6 ans, 6, 7 ans.
Voilà, 6, 7 ans. Donc, ça fait des anciens parmi les enseignants. Et vous allez avoir 6 cours avec lui. Et ensuite, 4 autres. C'est le seul trimestre où ce sera un cours à deux voix. Et alors voilà, donc pour votre dernier trimestre de clôture. Donc, c'est finalement vite passé et vous.
Ah, c'est vite passé.
Oh, ben, j'espère pas. Pour eux que c'est vite passé.
Oh. Il y a encore un plan pour moi.
Voilà, je vois bien, il manque rien. Non, c'est bon. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, hein, pas
fini. Bien, bonjour à tous. Alors, vous avez devant vous le plan du cours. Il y a donc les 6 séances. Et donc, nous allons procéder de la façon suivante. Aujourd'hui, d'une manière tout à fait étonnante, l'introduction. Et nous terminerons par la conclusion. Mais vous avez remarqué... Non, mais jusque-là, vous suivez. Et donc, le cours 6, vous voyez, sera un cours que j'ai appelé « Questions d'actualité ». Qui est un cours qui sera plutôt en forme de brainstorming, comme on dit en anglais, mais qui sera une tempête des cerveaux, c'est-à-dire j'aborderai des thèmes, mais je serai heureux qu'on les aborde ensemble aussi sous la forme de questions. Et donc ce que je vous demanderai pour le cours 6, à partir des éléments que j'aurai essayé de vous transmettre, c'est de vous préparer un peu cette dernière séance. Dans ce que j'aurais dit, il y aura des éléments qui vous auront contenté, je l'espère, d'autres qui resteront en suspens, peut-être des éléments que je n'aurais pas traités du tout, et donc le cours 6 pourrait servir à cela, mais j'ai listé d'ores et déjà, vous voyez, dans le cours 6, j'ai listé un certain nombre de thèmes que j'aborderai, parce qu'ils me paraissent importants. Mais vous voudrez peut-être en mettre d'autres à l'ordre du jour. Donc, ce sera une séance plus ouverte, je l'espère, et plus interactive que les autres. Avant de commencer mon introduction générale, donc quelques mots de présentation. Oui, je vous dis tout de suite aussi que je vous donnerai la semaine prochaine une bibliographie. Le temps que je l'actualise, parce qu'il faut quand même... que je tienne compte des actualités qui sont nombreuses pour qui traversent la Sainte Église de Dieu depuis quelques mois. Et donc, ne serait-ce que ça, ça fait une actualité et je dois vous proposer une bibliographie à l'ordre du jour. Donc, je vous la donnerai la semaine prochaine, il n'y a pas le feu au lac, ce n'est pas essentiel. Vous avez déjà au moins le plan. Oui, je vous disais quelques mots de présentation. Donc, je suis encore dominicain, en effet. Je suis ce qu'on appelle un dominicain hors communauté. Donc c'est un statut qui permet aux dominicains de s'émanciper de la vie commune, qui est normalement la nôtre, le temps nécessaire à beaucoup de choses, à une pacification en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris ce statut, qui est un statut prévu dans le droit de l'Église et dans le droit de l'ordre, qui est celui de vivre hors communauté quelque temps. Mais je suis encore dominicain. Alors, j'enseigne ici pour la... Oui, ça doit être la 7e fois, je pense, 6e ou 7e fois. Toujours la même chose. Avec des années, il y a quelques petits changements, ça dépend de mon de la personne qui prend le cours d'après, quoi. Enfin, ça a changé en 6-7 ans. Moi, j'ai à peu près fait toujours la même chose, c'est-à-dire l'introduction à la théologie morale et ou la bioéthique. Ça dépendait des années. Bon. J'ai d'autres lieux d'enseignement, puisque je suis... je suis officiellement membre de la faculté de théologie de la Cato d'Angers. Mais la Cato d'Angers connaît une restructuration massive, avec donc une... J'ai appris ça par hasard, mais la nomination de, je pense, d'un nouveau doyen, du coup, et puis la restructuration complète du corps professoral, la nomination de nouveaux professeurs, et donc une bonne partie, je pense, du corps professoral actuel va être contraint de quitter la faculté et sera remplacé par d'autres professeurs, d'après ce que j'ai compris, en provenance de Belgique, le tout sous la décision dont j'en sais pas plus, si vous voulez. Enfin, donc, c'est une faculté qui est en pleine restructuration. Et donc, pour l'instant, je n'y enseigne plus, mais enfin, je suis pour le moment toujours membre du corps enseignant. Et là-bas, j'ai enseigné principalement la même chose qu'ici, c'est-à-dire la théologie morale, l'histoire de la théologie morale, d'ailleurs, principalement, la morale fondamentale, avec Véronique Margron essentiellement, ou disons que quand Véronique n'était pas là, je suppléais, ou alors je faisais les TD, etc. J'ai aussi enseigné là-bas la morale sexuelle et familiale, ce qui n'est pas la partie la plus simple. Ça c'est pour... Et puis j'ai une activité... Alors, pour l'enseignement, j'ai encore deux, trois trucs qui traînent comme ça, par-ci, par-là. Mais finalement... Ah oui, si, j'enseigne dans l'enseignement catholique. Et là, dans l'enseignement catholique, j'enseigne l'éthique aux jeunes professeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent de passer l'équivalent des IUFM, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils viennent d'être capétiens. Donc, dans l'enseignement catholique, on dit cafépien, bon, c'est la même chose. Et donc, ils ont un petit cursus complémentaire à faire, enfin, pas si petit que ça, d'ailleurs, comme jeunes professeurs. Et donc, ils ont un tas de modules à suivre, dont le module que j'ai l'honneur d'assurer sur l'éthique. Et puis, je fais la même chose pour la formation permanente des chefs d'établissement de l'enseignement catholique, et c'est encore de l'éthique. Voilà, pour l'enseignement, c'est à peu près tout. Aussi... Ah oui, mon activité, mon ministère principal est celui d'être aumônier d'hôpital Sainte-Anne, à Paris, depuis 2 ans, avec une équipe de laïcs, et puis deux autres prêtres et un diacre. Donc je suis l'aumônier en chef, si vous voulez, de l'hôpital Sainte-Anne, qui est un hôpital avec des défis très importants, dont on entend parler d'ailleurs parfois à la télévision. Bon, c'est le plus gros hôpital de psychiatrie en France, mais il a également un pôle de neurologie, ça on le sait moins, mais qui est un pôle d'excellence aussi, puisque c'est l'hôpital qui accueille la plupart des AVC, une bonne partie des AVC de la capitale. Hein. Avec un service d'urgence, une réanimation, une chirurgie et puis une réadaptation. Puis tout le reste de l'hôpital, c'est de la psychiatrie par arrondissement, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est un hôpital sectorisé où vous êtes orienté en fonction de votre arrondissement, c'est ça que ça veut dire, d'habitation à Paris, pour la plupart des services. Voilà. Et puis, j'ai développé, ça c'est un peu extravagant, dans une vie d'ecclésiastique, j'ai développé une activité de psychanalyste depuis 10 ans. Donc, après avoir fait moi-même une analyse, j'ai pris la décision d'exercer ce coupable métier à Paris, en libéral, depuis 10 ans. Et à ce titre, du coup, bah, j'anime également des groupes de parole pour les soignants. En particulier à Angers, il y a un très bel institut, c'est un institut qui s'appelle Les Chênais, qui est un institut de pédopsychiatrie. Et là, je m'occupe donc j'ai la chance, parce que c'est très intéressant comme travail, d'animer un groupe de parole et d'échange pour les soignants. Voilà, ça fait quelques-uns de mes investissements. Je fais plus beaucoup de... Enfin, j'ai de moins en moins d'activités, on va dire. Je n'ai plus d'activité académique, au sens habituel de ce terme pour un professeur. Ce qui me plaît beaucoup, parce que je me suis déchargé de tout ce qui est académique et académisme. Et donc, c'est une grande chance, ça libère beaucoup de temps. Et ça me permet de continuer un petit peu la recherche, donc de publier de temps en temps et d'écrire différentes choses dans des revues spécialisées, si j'ose dire. Et puis, pour l'un ou l'autre livre, enfin bon, je suis en train d'essayer d'écrire un livre, j'espère que je vais y arriver, mais il y en a un qui sort tous les 15 jours. Alors, c'est sur les abus, puisque maintenant tout le monde parle des abus. Et donc, vous avez un expert des abus dans l'Église tous les 50 mètres maintenant. Hein. Donc, ça me fait penser... la comparaison n'est pas forcément très bonne, mais je me souviens au moment où Daesh commençait à mettre des bombes un peu partout et qu'on ne savait pas ce que c'était que l'islam ni l'islamisme, on a vu fleurir des spécialistes de l'islam sur tous les plateaux de télévision. On en voit moins maintenant. Donc maintenant, il y a une... Vu les scandales des abus dans l'Église, vous avez un spécialiste qui aurait été inspiré, d'ailleurs bien inspiré de parler avant, puisque maintenant on parle, mais on parle après la catastrophe. La catastrophe, on la connaissait. C'est peut-être plus facile, c'est vrai, de parler maintenant, et tant mieux qu'on parle maintenant, mais la catastrophe silencieuse agissait depuis fort longtemps. Donc la parole se libère, comme on dit, tant mieux, mais voilà. Alors je verrai si je peux écrire ce livre, mais de toute façon, je pense qu'on n'attend pas après moi. Alors moi, je vais modestement m'en tenir à une introduction à la théologie morale avec vous. Vous pouvez m'interrompre pendant le cours, ça ne me dérange pas. Hein. De toute façon, on fait une pause, bien entendu. Mais enfin, vous pouvez m'interrompre, je prendrai les questions... volontiers, pas trop à la fois, parce qu'il faut quand même garder le rythme, hein, mais ça ne me dérange pas. Surtout s'il y a un point de compréhension, vous n'hésitez pas, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc aujourd'hui, moi, je m'en tiens au point 1, qui est une introduction générale à cette introduction. Hein, puisque si vous preniez goût un jour à la théologie morale... sachez qu'aujourd'hui, pendant ces 6 séances, ça ne peut être qu'un parcours initiatique, j'allais dire apéritif, mais ça mériterait mieux. C'est-à-dire, ça mériterait vraiment d'entrer, d'approfondir des zones qui sont des zones fondamentales de la morale. Et donc, je fais aujourd'hui l'introduction de cette introduction. Vous voyez, on en est là, quoi. Alors, le titre que j'ai voulu donner à cette petite introduction est le suivant, vous le voyez sur votre programme. « Plus de 50 ans après Vatican II, des scandales contraignants ?» Point d'interrogation. Et puis, j'ai une petite note d'humour, j'espère que c'est pas trop déjà, mais bon. « Grâce à Dieu, un concile enfin applicable. Hein » L'idée que j'ai voulu vous suggérer dans ce petit propos un peu polémique, un peu provoquant, sans plus, c'est de se demander si les scandales actuels, qui sont de nature variée, hélas, on a vraiment la variété, c'est tout à fait plaisant, ne sont pas l'occasion favorable, le moment favorable, comme dirait l'Écriture, hein, le moment favorable, de enfin appliquer le dernier concile. Sachant que Le dernier concile date de 1962-1965. Hein, le concile Vatican II, 1962-1965. Je peux le redire autrement. En plus, je crois que ce n'est pas très original parce que vous devez déjà avoir entendu ça et vous allez l'entendre, à mon avis, par tous nos experts bientôt. C'est-à-dire, l'Église est face... l'Église catholique est face à un inédit qui la bouscule, ou même qui la traumatise carrément, ne serait-ce pas un kairos, comme on dit dans l'écriture, peut-être vous connaissez le mot kairos, hein, alors je vais écrire là, et en plus je prends le micro pour être enregistré. Pour être enregistré, parce que comme ça va passer après sur le site. Une nouveauté pour moi, ça. Bon. Donc.
Kairos.
Le Kairos. C'est-à-dire, est-ce que ces scandales que nous traversons avec souffrance et peine ne sont pas. Un kairos, une sorte de kairos, c'est-à-dire un kairos dans l'évangile, en particulier l'évangile de Jean, c'est l'heure. D'ailleurs, nous nous approchons, puisque nous sommes sur le chemin de Pâques, nous nous approchons de l'heure de la passion, c'est-à-dire l'heure de la mort et de la résurrection. Peut-être que l'Église, oui, c'est ça, peut-être que le moment que nous vivons depuis quelques mois maintenant est un kairos, c'est-à-dire... un peu comme à l'image de ce qui est arrivé, à l'instar de ce qui est arrivé au Christ, un moment de mort et de résurrection. Hein, une forme, l'heure de l'Église est peut-être arrivée. Alors, je dramatise à l'envi, mais je veux dire au moins l'heure d'une certaine forme d'Église est peut-être arrivée, d'un certain visage de l'Église, d'un certain fonctionnement de l'Église est arrivé, et peut-être que c'est ce moment-là, et après tout, ça pourrait être aussi un moment de grâce. Si je réfère ça au Concile, c'est que vous sentez bien, vous savez sûrement déjà, que le Concile Vatican II, donc au début des années 60, a été voulu par le pape Jean XXIII, puis par le pape Paul VI, pour être un grand moment de réforme de l'Église. Il y a plus de 50 ans. Alors, on a peut-être raté quelque chose. Il y a peut-être un petit problème dans la réforme. Nous sommes plus de 50 ans. Il y a quelques années, on a fêté les 50 ans de Vatican II. Et maintenant... Enfin, pas seulement maintenant, mais avec malheureusement la gravité de la crise, nous entendons, aux surprises, qu'il faut redécouvrir les pistes ouvertes par Vatican II.
Bah,
oui ?
Je suis heureuse de vous entendre dire cela, mais malheureusement, moi j'entends aussi... l'inverse, c'est-à-dire qu'on en est là, et je ne partage absolument pas ce propos, on en est là à cause de Vatican II.
Alors c'est une autre lecture, oui. Mais vous faites bien de la mentionner.
Je suis heureuse de ce que vous dites.
Oui, alors j'en prends mon propos et je répondrai à la remarque qui est tout à fait pertinente. De reprendre les pistes de Vatican II. Bon, c'est-à-dire que vous savez que le concile de Vatican II est un concile qui n'a pas traité la question de la morale, hein, puisque nous sommes dans une introduction à la morale. Le concile Vatican II a déjà réformé. Alors le mot réforme, il est, faut pas trop en abuser, si j'ose dire, parce que vous savez, le propre d'une réforme, c'est que c'est irréformable. Dès lors que vous avez envie de faire une réforme, vous ne la faites pas parce que vous calez On ne réforme que l'irréformable. C'est très, très embêtant. Mais... Et donc, c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce néologisme, maintenant, qu'on emploie tout le temps, y compris dans les milieux politiques, qu'il faut être disruptif. D'accord ? Disruptif. Vatican II aurait-il été disruptif ? Il y a quelque chose qui empêche forcément une certaine réforme dans l'Église, c'est ce qu'on appelle la tradition. Le pape Benoît XVI l'indiquait de la manière suivante. Il parlait d'une. Il dit pour interpréter le Concile Vatican II, et même toute décision d'Église, il y a il faut le faire selon deux courants, disait-il. D'ailleurs, Vatican II, le Concile de Trente, pour interpréter la tradition, finalement. Il y a deux lectures possibles, et ça répondra certainement d'ailleurs déjà à la question de madame, à savoir qu'il y a deux herméneutiques. Herméneutique, ne vous laissez pas impressionner par le mot, je vois que madame est déjà très informée. Herméneutique, ça veut dire interprétation. Mais ça fait plus intelligent de dire herméneutique. Donc j'essaye, moi aussi. Dès qu'il y a plus de 5 syllabes, vous savez, c'est plus intelligent. Donc, herméneutique. Voilà. En fait, c'est parce que c'est formé sur le mot grec, herménein, qui veut dire interpréter. Et alors, les philosophes d'abord, puis les théologiens, ont acclimaté ce terme dans leur réflexion. Donc, Benoît XVI dit qu'il y a deux herméneutiques pour interpréter un acte du magistère en particulier. L'herméneutique de continuité et l'herméneutique de rupture. Et Benoît XVI disait, il faut tenir les deux ensemble, il ne faut surtout pas les opposer. C'est ce qui est le plus difficile, évidemment, puisque... Alors, si on prend l'exemple de Vatican II, si vous faites de Vatican II un concile de rupture, uniquement, vous faites tabula rasa du passé, hein, vous jetez aux orties tout ce qui ne vous plaît pas, et vous ne choisissez que ce qui est nouveau dans le concile. C'est une faute. C'est probablement d'ailleurs même une hérésie. D'un autre côté, si dans le Concile Vatican II, vous ne regardez que la continuité, vous ne voyez pas l'apport spécifique et innovant de Vatican II. Alors, le plus dur, c'est évidemment de conjuguer les deux et de ne pas céder à l'un ou à l'autre. Sur la question morale, le Concile, je vous l'ai dit à l'instant, s'est arrêté à la question morale parce qu'il avait déjà beaucoup réformé. Le mot d'ailleurs « réforme » n'est pas exactement le mot le plus obvious. Il faudrait plutôt dire cela. « Aggiornamento », c'était le mot de l'époque, c'est-à-dire en français la mise à jour, hein, comme vous faites sur Internet pour intégrer les mises à jour de votre ordinateur. L'aggiornamento, c'est finalement faire en sorte que l'Église soit mise, j'allais dire, au bout du jour, ça n'en sait rien, mais en tout cas qu'il y ait une mise à jour, qu'il y ait une actualisation des données de fond de la tradition catholique, on pourrait le dire comme ça. Hein? Bon, on peut utiliser le mot réforme, hein? Il n'est pas interdit, ça évoque surtout la réforme protestante, mais enfin, ça a le sens d'être un mot très connu et très valable par ailleurs. Bon. Alors, le Concile Vatican II s'est intéressé à énormément de choses qui impactent la morale ou pas. Alors, sur le spécifiquement moral, il n'y a rien de nouveau en ce qui, à part le concile. Le concile n'a rien apporté de nouveau sur la morale familiale et sexuelle. Rien. C'est la tradition constante qui a été redite, n'est-ce pas ? Et donc, vous trouvez dans Vatican II, puis après, évidemment, après Vatican II, chez tous les papes, la même condamnation, par exemple, de l'avortement, la même condamnation de l'euthanasie, la même... ce qu'on appelle, en gros, la morale de la vie. La morale de la vie, c'est un terme que Jean-Paul II utilise beaucoup. Quand on parle de morale de la vie, il s'agit de quoi ? Il s'agit de protéger la vie naturelle de l'être humain, enfin de la personne humaine. Hein, le bon terme en théologie catholique, c'est personne. Hein. Donc protéger la vie naturelle de la personne humaine, de l'embryon, jusqu'à la mort naturelle. Ça ne date pas d'ailleurs de Vatican II. Vatican II n'a fait que le reprendre, n'a rien touché à cela, et les papes qui ont appliqué le concile ont continué sur cette ligne-là. Donc en morale familiale, sexuelle, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas d'apport spécifique. On aurait pu l'imaginer. On sait maintenant, par la recherche historique, que le pape Paul VI a, c'est intéressant pour nous, le pape Paul VI a arrêté le concile avant que les pères conciliaires n'en parlent.
Et pourtant,
je me permets de terminer, avant que le père conciliaire n'en parle, c'est-à-dire, les pères conciliaires s'étaient déjà pas mal échauffés sur des sujets polémiques. Il est vraisemblable que Paul VI n'a pas a préféré se dire on va arrêter là parce que on ne sait pas où on va. Hein. Mais si vous avez des souvenirs de cette époque ou de ce que vous en avez lu ou appris, le Concile a déjà fait la réforme de la liturgie. Et la réforme de la liturgie nous a valu un schisme. Bon, ça c'est pour le plus spectaculaire, mais... Le Concile a totalement révisé, en principe, la place des laïcs, en principe, la place des laïcs dans l'Église. Le Concile a ouvert la porte à l'écuménisme, beaucoup plus largement qu'avant, c'est-à-dire au dialogue entre confessions chrétiennes. Et il l'a fait en reconnaissant les éléments positifs. L'Église catholique reconnaît les éléments positifs communs, on pourrait dire, qui existent avec et dans les autres églises ou communautés chrétiennes. Et puis le Concile a ouvert la porte, et là aussi ça a été très difficile, y compris avec le schisme lefévriste, au dialogue interreligieux, c'est-à-dire à la reconnaissance des éléments de vérité qui peuvent exister dans les autres grandes religions du monde, que l'on appelle improprement les religions du livre, à savoir Israël et l'islam. Je dis improprement, puisque on parle plutôt maintenant des religions de la parole que des religions du livre. Bon. Alors, Paul VI, le Concile avait déjà suscité des débats enflammés, un schisme, je vous l'ai dit. Les résultats obtenus ont déjà été très importants,
très conséquent. Et donc le concile a été fermé sur la question de la morale familiale et sexuelle. On n'en a pas parlé. Finalement, sur cette question-là, c'est la tradition précédente qui a été maintenue, confirmée et amplifiée. Alors, il y a d'autres éléments dans le Concile Vatican II qui touchent la théologie morale. Donc, je ne dis pas la morale sexuelle et familiale. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, si vous prenez les encycliques de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI, vous verrez, bon, bah, Vatican II a dit, etc. Donc c'est une reprise. Il y a des éléments nouveaux, incontestablement, dans la morale économique et sociale, je trouve. Des éléments nouveaux qui sont très liés au contexte du temps. Donc, pour situer, 62, c'est la baie des cochons, c'est la course à l'armement nucléaire, c'est le bloc Est-Ouest, URSS, États-Unis, le monde est au bord de l'abîme. Rien à voir avec la situation actuelle. Enfin, on est toujours au bord de l'abîme, ce qui est rassurant. On n'a pas encore basculé et c'est plus pour les mêmes raisons. Mais enfin, bon, en 62 déjà nous étions au bord de l'abîme, c'était avant le réchauffement climatique. Et donc l'Église, et en particulier avec le pape Jean XXIII, a défendu, y compris dans les textes du Concile, les valeurs de paix. De paix, de dialogue, de fraternité, les mêmes valeurs que le pape François, par exemple, vient de reprendre au Maroc. Exactement ça. C'est-à-dire, et l'Église a très vite plaidé pour un désarmement. Paix, désarmement, dialogue, dans un monde qui était surarmé et un monde dans lequel la menace nucléaire semblait quotidienne. Et puis il y a également dans le Concile des considérations sur l'état de la morale économique, si vous voulez, du monde, qui sont, on l'a dit après, on le dit maintenant, très liées au contexte de cette époque. C'est-à-dire, finalement, ce que le Concile Vatican II a dit sur la situation économique et sociale de l'époque est tellement lié au contexte de l'époque qu'il faudrait maintenant l'actualiser. Je vous donne un exemple, mais on reprendra ça. Le capitalisme, la situation du capitalisme, en particulier du capitalisme financier dans les années 60, est quand même très différente de la situation d'effondrement ou, disons, de maladie du capitalisme financier aujourd'hui, en 2019. Donc, les éléments de morale économique et sociale du Concile Vatican II sont des éléments qui, pour une part, sont liés au contexte du temps et qui mériteraient probablement d'être actualisés. Bon, la paix, la justice, est toujours d'accord, donc ce n'est pas difficile à actualiser. La morale sexuelle et familiale, je vous dis, il n'y a pratiquement rien. Rien, c'est-à-dire, bah, c'est la validation de ce qui a été dit avant. Et sur ce sujet, les encycliques ne bougeront pas, après Vatican II, jusqu'à François, hein, puisque François, incontestablement, fait bouger un point, et un point extrêmement sensible, dans Amoris Laetitia, hein, donc son exhortation. L'exhortation Amoris Laetitia bouge un point qui concerne, mais le bouge avec d'infinies précautions, mais le bouge quand même sur l'accès à l'Eucharistie des couples divorcés remariés. À part ça, D'ailleurs, certains ont rêvé que le pape allait changer tout d'un coup, ce pape-ci allait changer tout d'un coup grâce au synode sur la famille. ce synode a largement été un échec, enfin, disons, soyons optimistes, un demi-échec. Peut-être qu'il a fait la moitié du travail, et là encore, les affrontements assez forts et violents entre pères conciliaires n'ont pas permis de dégager des majorités qui feraient vraiment évoluer les choses. Mais sur la question des divorcés mariés, ça a incontestablement bougé. Voilà. Sinon, sur la morale sexuelle et familiale, hein, nous vivons actuellement sur celle qui est enseignée depuis très, 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 très longtemps. Et donc, c'est justement l'objet du cours. On verra que la plupart des choses qui sont vécues aujourd'hui s'enracinent dans l'écriture, si je caricature un peu, hein, dans l'écriture, pas tellement. Chez les pères de l'Église, beaucoup. Chez saint Thomas, beaucoup. Et après saint Thomas, encore plus, c'est-à-dire nous vivons essentiellement sur une morale sexuelle et familiale qui s'origine après saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire au XIVe siècle, jusqu'au XIXe inclus. C'est cette séquence-là que nous poursuivons. Alors, ne vous affolez pas, justement, le but des cours, c'est de décrire ou d'entrer en tout cas un petit peu dans cette séquence et de vous en présenter les axes majeurs. Bon. Je reviens sur la place des laïcs. Un des grands apports de Vatican II, pour ne pas dire une des révolutions, là encore un terme à manier avec d'infinies précautions, une des révolutions de Vatican II a été, probablement la plus éclatante, a été la place des laïcs dans l'Église. C'est-à-dire, et là les implications morales ou éthiques sont majeures. Jusqu'au Concile Vatican II, disait le père Congar, C-O-N-G-A-R, Yves Congar, un des grands experts du Concile, jusqu'à Vatican II, le discours sur l'Église se réduisait à un discours sur la hiérarchie. Ça, c'est à écrire, je pense, en lettres d'or sur vos cahiers, en fluo total, parce que on peut se demander si, d'un certain point de vue, on n'en est pas toujours là, mais enfin, jusqu'à Vatican II, le discours sur l'Église était un discours sur la hiérarchie, c'est-à-dire sur les ministres ordonnés. L'Église était présentée comme une pyramide. Alors le mot pyramide, je l'assume, comme disent, vous savez, les politiques. Plus ils font de bêtises, plus ils assument. Bon, le mot pyramide, il ne vient pas de moi, il vient du pape François, puisque au synode sur la famille, il a dit ça, il faut mettre fin à la pyramide. Et la pyramide, elle est toujours là. Donc, quand je dis, en reprenant le père Congar, le discours sur l'Église se ramenait à un discours sur la hiérarchie, finalement, l'Église se présentait comme une pyramide. Au sommet, le pape. À la base, vous. Moi, je suis un petit peu au-dessus. Mais, si, c'est sûr. Et donc, quand même, attendez. Donc, le discours sur la pyramide, c'était donc le pape, tout seul en haut, vous voyez la pyramide. Hein. Le pape, évêque du monde entier, évêque universel. Il prend une décision, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui dans le code de droit canon, une décision du pape est universelle, immédiate et sans discussion, encore aujourd'hui. Et puis, la pyramide, vous sentez bien qu'autour du pape va y avoir les cardinaux, qui sont la plupart tous des archevêques, pas tous, mais quasi tous les archevêques, donc des super-évêques, puisqu'ils sont archevêques, c'est un évêque plus. Donc les évêques, en dessous des évêques, les prêtres, qui forment le gros des troupes, parce que numériquement, c'est le gros des troupes. En dessous des... Je dis ça comme une hiérarchie, donc c'est comme à l'armée, si vous voulez. En dessous des prêtres, les diacres, avec quand même l'acquis des diacres mariés, ce qui n'est pas négligeable, mais qu'est-ce qu'on en a fait, au juste? Et puis, le plus gros des troupes, c'est vous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout ordonnés, qui sont des laïcs. Et cette pyramide fonctionnait en disant le focus, le discours sur l'Église, était un discours sur les ministres ordonnés, rien ou quasi rien sur les laïcs. Et vous preniez un texte officiel, eh bien, il s'ouvrait toujours par un peu comme s'ouvre maintenant une encyclique, si vous regardez bien comment une encyclique, le pape s'adresse d'abord aux évêques de l'Église catholique, virgule, aux prêtres, virgule, il doit mettre quelque part les religieux, religieuses, femmes, enfin en tout cas les religieux, hein, c'est sûr. C'est pas trop où les caser d'ailleurs les religieux dans tout ça, les religieuses, hein, parce qu'elles sont pas dans la hiérarchie. Donc, mais je reviendrai peut-être là-dessus, parce que là je fais pas de l'ecclésiologie. J'en fais un peu, mais bon, c'est pas ma spécialité, mais là c'est nécessaire quand même. Et puis après, bah, les laïcs. Alors, le Vatican II a changé complètement le schéma. En présentant d'abord l'Église comme un peuple. La grande nouveauté de Vatican II, c'est que l'Église est d'abord un peuple. Et le Concile, d'ailleurs, s'ouvre par ces définitions-là. L'Église est le nouveau peuple de Dieu. Ce qui représente un élargissement considérable et un appel d'air majeur. Et aujourd'hui encore, on se demande ce qu'on peut en faire. Et évidemment, on n'a pas fait grand-chose, à mon avis. On a fait plein de choses, hein, mais on n'a pas encore, on est loin d'avoir tout fait. Bon. L'Église est d'abord un peuple. Et dans ce peuple, non pas au-dessus du peuple, mais dans ce peuple, s'insèrent les ministères ordonnés. Oui.
Est-ce que c'est pas justement ça, quand même, peut-être plus que la réforme liturgique, qui a provoqué la réaction schismatique de Mgr Lefebvre ?
Oui et non. Non, parce que formellement, c'est sur la liturgie. C'est-à-dire le texte qui a déclenché le schisme, c'est sur la liturgie. D'ailleurs, en fait, si ma mémoire est bonne, on a contrôlé après les votes, et il se trouve que Mgr Lefebvre avait voté pour la réforme, hein, dans le vote effectif. Mais bon, après, ça ne l'a pas satisfait, et le schisme a démarré sur la question de la liturgie. Mais oui, alors donc c'est un nom, mais oui, la liturgie est toujours révélatrice d'autre chose que d'elle-même. La liturgie est toujours porteuse parce que c'est une pratique. Et comme c'est une pratique et qu'elle engage tout notre être, il est évident qu'elle révèle beaucoup plus qu'elle-même. Et en l'occurrence, la liturgie a révélé une fracture qui la dépasse, qui touche en effet notamment la place des laïcs, mais qui touche aussi le dialogue écuménique et le dialogue interreligieux. Refusé pour l'essentiel par les lefévristes. Donc, l'Église est présentée comme un peuple, comme le nouveau peuple de Dieu. Alors, c'est d'ailleurs une image vétérotestamentaire. Hein. Le peuple, c'est d'abord le peuple hébreu. Donc, Vatican II est allé chercher une image dans l'Écriture, qui est l'image vétérotestamentaire du peuple. En disant, l'Église est d'abord un peuple. On ne peut parler du ministère ordonné qu'en référence à ce peuple. C'est-à-dire, les ministres ordonnés ne sont pas au-dessus du peuple, ils sont dans le peuple, et c'est tout le peuple qui chemine vers le royaume de Dieu. Vous voyez, le logiciel, si j'ose dire, est complètement différent. On se demande comment on n'y a pas pensé avant. Il est complètement différent. Hein. Pour le dire autrement, il y a dans l'Église catholique un unique sacerdoce. Il y a dans l'Église catholique un unique sacerdoce qui est le sacerdoce baptismal. C'est le baptême qui définit la condition commune du chrétien. C'est le baptême qui fonde l'égalité et la dignité commune des chrétiennes et des chrétiens dans l'Église. Le pape est, figurez-vous, d'abord un baptisé. Une fois que l'on a considéré cela, c'est-à-dire l'unique sacerdoce, le sacerdoce commun, on peut penser le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce de ceux qui, en effet, recevront un ministère. Et vous savez, il y a trois ministères pour le moment. Je dis pour le moment parce que ça s'est structuré comme ça. Diaconal, presbytéral et épiscopal. Hein? Mais le sacerdoce ministériel n'a de sens qu'articulé au sacerdoce commun, qui est le sacerdoce du baptême. C'est pour ça que j'ai parlé de révolution, si vous voulez, c'est que c'est... Voilà, enfin, on a fait complètement... Pour le coup, les pères ont fait une petite révolution qui est une énorme révolution qui fait que vous êtes ici, aujourd'hui, à faire de la théologie. La théologie avant Vatican II, c'est une théologie pour les futurs prêtres, enseignée par des prêtres. Point. D'ailleurs, c'est que des hommes. Hein. On est bien d'accord que c'était une théologie pour les hommes, par les hommes, et ordonnée ou ordonnable. Vous n'êtes plus du tout dans cette situation. C'est-à-dire que c'est les acquis de Vatican II qui font que les laïcs font de la théologie, hommes et femmes, et pas spécialement en vue du ministère. Ce qui n'empêche pas de faire que les séminaires, d'ailleurs, reçoivent, enfin, quand c'est encore le cas, des séminaristes pour être ordonnés. Mais vous êtes l'application concrète du Concile, à savoir, l'Église est d'abord un peuple, et ce peuple fait de la théologie. Donc, par exemple, ici, vous êtes là pour faire de la théologie. Si je veux être dans mon ecclésiologie complet, je suis obligé de dire que bon, il y a d'autres images de l'Église que celles du peuple. Il y en a notamment deux autres qui sont le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et l'Église est le temple de l'Esprit. Temple de l'Esprit Saint. Vous voyez que à chaque fois, on retrouve ces images dans le Concile Vatican II. Corps mystique du Christ. Hein. Ce sont des images scripturaires aussi. On retrouve ces images dans l'Écriture. Pie XII a même écrit l'encyclique qui parle du corps du Christ comme corps mystique du Christ. Temple de l'Esprit, c'est peut-être l'image, la métaphore la moins développée, la moins utilisée, à mon avis. Mais ça, c'est parce que nous sommes des latins et que les latins ont toujours tendance à penser en termes de père, fils, et très peu en termes d'esprit. C'est le charisme, c'est le cas de le dire, le charisme de la tradition orientale, c'est de mettre en valeur, beaucoup plus que chez nous, latins, le rôle de l'Esprit-Saint, le rôle de la troisième personne de la Trinité. Mais enfin, dans ces trois images, l'Église est le peuple de Dieu, l'Église est le corps du Christ, l'Église est le temple de l'Esprit, il est indiscutable que Vatican II a mis le focus sur la première. L'Église est le nouveau, même, il faut dire, hein, le nouveau peuple de Dieu. Ce qui a permis, vous voyez, au Concile, de décloisonner la place des laïcs dans ce peuple, de mieux, de la situer de façon plus ajustée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le pape François n'arrête pas de stigmatiser le cléricalisme. Qu'est-ce qui tord le cou le mieux au cléricalisme que Vatican II ? C'est dans le texte. Alors, moi, je suis toujours étonné quand on nous dit, ben voilà, ce qu'il faut, la liste de ce qu'il faudrait faire pour l'Église. Ok, faisons une liste. Mais si on reprenait ce bon vieux Concile Vatican II il y a 50 ans, qu'on a appliqué un peu, mais qu'il faudrait certainement... On n'arrête pas de dire, d'ailleurs, de s'inspirer de Vatican II. Ben alors, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'est-à-dire, c'est le Vatican II qui... Les clés, on les a, il suffit de s'en saisir. L'Église est un peuple. Qu'est-ce qu'on a fait de la notion de sacerdoce commun, de sacerdoce baptismal ? Comment elle a été valorisée au concret dans les paroisses, dans vos familles, dans les diocèses ? Alors si, elle a été beaucoup. On a embauché des laïcs, etc. Bon, la théologie, il y a de multiples exemples. Hein.
Qu'est-ce qui a freiné le fait qu'on...
Le cléricalisme a freiné. C'est-à-dire que c'est l'ancien modèle qui a freiné des quatre fers pour bloquer... c'est-à-dire pour... La pyramide, vous la chassez par la porte, elle revient par la fenêtre. Hein? Parce que cette pyramide, elle est très ancienne. C'est un autre schéma d'Église qui est le schéma impérial, en réalité. L'Église était structurée tel un empire. C'est le système, c'est le schéma constantinien, si vous voulez, de l'Église, qui a... regardez, ce sont des faits d'actualité. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale, comme on dit maintenant, du pape en Italie qui refuse qu'on lui baise l'anneau papal. Et pourquoi ? Parce que le pape François dit souvent « Je suis vicaire du Christ, je ne suis pas monarque. »
C'est pas une question uniquement microbe, donc nous, on doit vous en
parler. Non, mais certainement pas, en effet. Mais « Je suis vicaire du Christ, je ne suis pas monarque. » D'accord, mais les gens qui ont voulu lui baiser l'anneau papal, qui ne porte pas d'ailleurs, ou rarement, le considérait encore comme un monarque. D'accord ? C'est-à-dire, mais c'est normal, hein, c'est spontané. Hein, l'Église, c'est le Saint-Père, c'est le Très-Saint-Père, donc c'est une pyramide paternelle, c'est une pyramide d'autorité, sous la forme de l'autorité paternelle, voire paternaliste.
Cela dit, constitutionnellement, le Vatican est quand même bien une monarchie absolue.
Qu'est-ce que vous voulez constitutionnellement ? Dans le droit canon ?
L'État du Vatican.
Ah, l'État du Vatican. Oui, parce que le...
Je ne parle pas d'Église, je ne dis pas que l'État est une monarchie absolue. L'État du Vatican est une monarchie absolue.
Oui.
Donc il est quand même...
Il
est chef d'État.
Ah oui, il est chef d'État, bien sûr.
Mais ça s'est imposé par la...
Il est chef... structure, non ? Oui, il est chef d'État. C'est par exemple l'origine du dernier motu proprio du pape qui fait appliquer à l'État du Vatican les nouvelles normes concernant la pédophilie. Puisque l'État du Vatican ne s'était pas doté encore de ces normes, Et donc, il fallait mettre à niveau l'État du Vatican, et comme chef d'État, il a demandé que les normes de l'Église s'appliquent à l'État du Vatican. Donc, mais la structure pyramidale, elle est, encore une fois, elle est spontanée, et elle est médiatiquement spontanée. C'est très difficile de dire aux gens que ce n'est pas une pyramide. Pourquoi ? Regardez aujourd'hui avec les médias, votre enfant, il connaît d'abord, ou les petits-enfants, ça dépend, connaissent d'abord le nom du pape plutôt que celui de leur curé. Donc, avant plus avec les médias, souvenez-vous de Jean-Paul II, le pape superstar, la pyramide, elle est là. Parce que c'est aussi, c'est non seulement une pyramide, une construction théologique, mais c'est une construction médiatique. Et donc, sortir de ce modèle-là, qui est un modèle assez spontané, qui est un modèle d'ordre, et un modèle vertical, il y a une verticalité autoritaire dans l'Église, il y a une autorité verticale, c'est mieux. Il y a une autorité verticale dans l'Église qui lui est assez confortable et visible, qui est héritée de l'histoire massivement, qui est celle fondée sur, qui est le schéma constantinien, c'est ce que le théologien Guillaume Lafont appelle le schéma constantinien. Vatican II a essayé de contester cette image, d'en valoriser une autre, le peuple. Mais le peuple, c'est beaucoup plus vague. Regardez avec les mouvements, le peuple, qu'est-ce que le peuple ? Bon. Par ailleurs, accentuer sur l'image du peuple, c'est prendre le risque d'une plus grande démocratisation de l'Église. C'est-à-dire, quand on fait confiance au peuple, on est obligé d'aller vers des modes de pensée, des modes de fonctionnement démocratiques. C'est-à-dire, par exemple, procéder à l'élection des évêques, comme c'était le cas dans l'Antiquité, n'est-ce pas, où un évêque était où l'Esprit Saint se manifestait dans l'élection. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque le Saint-Père nomme un évêque, on considère toujours que le choix du Saint-Père correspond au choix du peuple. Mais nous avons perdu la tradition de l'élection. Si l'Église est un peuple, c'est une vraie question. Vous voyez, c'est très important, ça, ce petit détour ecclésiologique est très important parce qu'il a forcément des répercussions morales et éthiques sur nos manières de nous comporter, nos manières de penser l'Église, de vivre l'Église. Est-ce qu'il y a une question et on fait la pause ?
Alors, oui. Moi, la question, c'est... Moi, j'ai vu... Ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, j'étais dans les aumôneries d'enseignement public et j'ai été vraiment bercé par le concile de Vatican II. Enfin, j'ai été élevé là-dedans avec une structure d'aumônerie qui mettait en place les laïcs, enfin, qui donnait le pouvoir aux laïcs, la place aux laïcs. Et comment vous expliquez, ce retour dans les années 80 du cléricalisme, comme si au fond, est-ce que l'Église n'a pas eu peur de perdre son identité? Est-ce qu'elle n'a pas eu un réflexe identitaire à un moment qui a fait qu'on a dit on va remettre des cols romains aux prêtres, des soutanes éventuellement, etc.
Alors,
et qui a accompagné peut-être le cléricalisme?
Alors, on va remettre, ils l'ont fait tout seul. Hein.
Ouais. Ils se sont sentis un petit peu perdus à un moment.
Alors oui, je pense qu'ils se sont perdus parce qu'à force de... Le risque, vous comprenez, c'est... À force de parler de sacerdoce commun, c'est que les jeunes prêtres n'ont plus perçu quelle était leur identité.
Voilà.
Et ça a été une crise d'identité très importante et qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que de même que dans la mondialisation, nous perdons tous notre identité, hein, dans l'Église d'après Vatican II, si cette expression a un sens, dans l'Église d'après Vatican II, l'identité du prêtre s'est trouvée diluée. Mais il y a une autre raison qui me paraît au moins aussi importante, qui en a sans doute beaucoup plus que... C'est l'ignorance de l'histoire. C'est-à-dire que peu à peu, regardez ce qui se passe quand on parle des manuels d'histoire, etc. Regardez le retour d'un certain antisémitisme, les profanations, etc. Peu à peu, la génération qui est derrière, des jeunes qui sont après nous, n'est-ce pas, se sont mis, comme nous-mêmes par rapport à nos prédécesseurs, mais plus encore, je pense maintenant, à ignorer l'histoire et à ignorer le concile lui-même. Hein, c'est-à-dire, alors l'ignorance a été parfois savamment entretenue. Bon, d'accord. Mais il y a, vous savez, lire le concile Vatican II, vous avez vu ce que c'est. C'est une brique. Je ne suis pas sûr que tous les licenciés en théologie aient lu tout le concile. Comment voulez-vous qu'un texte aussi gros, aussi lourd, qui est daté dans pas mal de ces... Parce que je vous ai dit, l'abbé des cochons, c'est plus ça. Enfin, donc il y a des textes qui sont un petit peu... Les circonstances ont changé, donc il y a une partie des textes qui sont un peu obsolètes, ou disons un peu vieillots. Et avec le phénomène naturel d'oubli, le concile a été naturellement oublié. Parfois, il a été... idéologiquement oublié, mais souvent aussi, il a été naturellement oublié. Je suis surpris, moi, dans ma génération, de voir à quel point je suis contraint, comme théologien, de redire ce qui est une banalité ecclésiologique totale, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire sur l'articulation entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ordonné. C'est une... Si vous voulez, c'est le béaba de toute ecclésiologie qui a un impact dans tous les domaines de la théologie, conceptuelle ou pratique. On le redit quand, ça? C'est-à-dire que les acquis, c'est comme les acquis sociaux, quoi, hein, mais les acquis majeurs de Vatican II se sont effacés, se sont estompés. Certains y sont allés avec le... OK. Mais se sont estompés naturellement, de sorte qu'on est obligé de ressortir le concile... Et de dire, mais vous savez, on cherche là, on fait des listes en ce moment, mais c'est dans les textes. C'est dans les textes. Après, on n'a pas les recettes concrètes, mais l'esprit du concile, comme on ne sait plus à parler de ça, hein, l'esprit du concile, on appelait également le souffle du concile, ben, il faut rouvrir, peut-être pas la boîte de Pandore, mais en tout cas, il faut que le souffle du concile soit... On rouvre cette porte qui a été fermée. Alors, soit elle a été fermée parce qu'on trouvait que le concile allait trop loin, que le concile était trop dangereux, soit on a tout simplement oublié, comme on oublie des événements majeurs. Vous savez, regardez l'enseignement du stalinisme en Union soviétique, enfin, lapsus en Russie, on nous ressort des statues, on nous remet des couches de stalinisme, et ça paraît naturel au peuple. Parce que les jeunes générations ne savent pas. Et parce que les jeunes générations ne savent pas ou ne savent plus, on va aujourd'hui dire « Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour la réforme de l'Église ?» On a juste fait un concile, hein, écuménique. Hein. Bon. Et donc... C'est deux aspects-là. Je pense en effet un aspect de disparition de la spécificité de l'identité du ministère qui a obligé certains prêtres à se recentrer sur, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de l'identité sacerdotale. Bon. Mais il y a aussi tout simplement l'oubli spontané ou délibéré du dernier concile. Alors on fait la pause.